Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse. Huitième cassette, première face, page 312. Suite et fin de l'histoire de Nahrouddin, le cordelier. Quand il revint chez lui, la nuit était déserte. Sa femme, Yashmina, Yashmina, dormait sur la paillasse. Il s'allongea près d'elle, resta les yeux ouverts dans le noir, mille pensées en tête. Il s'endormit à l'aube. Quand il se réveilla, le soleil de midi, par les fentes du toit, éclairait vaguement le plancher de la chambre. Il se leva d'un bond, courut à l'atelier, et là, estomaqué, poussa un cri d'horreur. Le vieux pot de farine avait quitté son coin. Il hurla « Yashmina !» Elle vint. Il lui dit « Il y avait là un pot, un vieux pot de farine. Femme, qu'en as-tu fait ?»«
Il ne servait à rien. Nous n'avions plus un sou. La femme du coiffeur m'a donné du henné. Je lui en ai fait cadeau.
Mon homme, qu'as-tu donc ?»«
Yashmina, je suis mort !»
répondit Nuruddin. Il lui conta sa miraculeuse aventure, lui dit sa crainte des voleurs, son idée de cacher son trésor dans ce pot. Yashmina l'écouta, effarée, puis releva sa jupe et s'en alla en courant dans la longue ruelle. Elle aperçut au loin la femme du coiffeur qui s'en revenait du marché. Elle lui fit de grands signes, la rejoignit, s'emberlificota dans des phrases confuses.
« C'est le pot que tu veux, le vieux pot de farine ?» lui répondit la femme.
« Je te l'aurais rendu de bon cœur. » Mais mon mari tout à l'heure l'a vendu à un colporteur de passage, avec quelques vieilleries qui encombraient la maison. Si tu manques d'argent, prends donc ces 4 sous. Ce que tu m'as donné ne valait guère plus.
Quand Nuruddin la vit revenir les mains vides, il se sentit soudain infiniment fatigué. Il lui fallait pourtant survivre. Il soupira, baissa la tête et se remit à son ouvrage. 3 mois passèrent, durs et lents. Puis vint enfin le jour où son bienfaiteur franchit à nouveau le seuil de son échoppe avec son compagnon silencieux et fidèle. Les deux hommes s'étonnèrent. Dans le pauvre atelier, tout était à sa place. La porte vermoulue, les vieilles étagères, la petite lucarne et les murs bosselés.
« Hélas, dit Nahrouddin, un terrible accident, Seigneur, est arrivé. »
Il conta ses malheurs. L'inconnu lui sourit.
« Rassure-toi, dit-il, un sac de pièces d'or pour moi n'est pas grand-chose. En voici donc un autre. J'espère que cette fois, tu sauras trouver le chemin du bonheur. »«
Seigneur, répondit Nuruddin, je ne peux accepter. Je ne pourrai jamais vous payer en retour. Or, je suis pauvre et sot, mais je suis honnête homme. »«
Ami, dit l'inconnu, prends ce que je te donne. Tu ne me devras rien. C'est à moi, sache-le, que tu feras du bien. » Nuruddin s'inclina. Quand il se redressa, les deux hommes étaient déjà dans la ruelle. Yashmina, doucement, entra dans l'atelier.
« Vois !» lui dit son mari.
Ils s'embrassèrent, en riant et pleurant. Puis Nuruddin chercha où cacher sa fortune nouvelle.
« Mets-la dans ton turban, lui dit sa femme. Tu ne le quittes jamais, sauf pour dormir. Ainsi, tu l'auras toujours à portée de la main et tu seras tranquille. »
Nuruddin trouva l'idée bonne.
Il passa tout le jour à se palper le crâne. La nuit venue, il mit son turban sous le lit, ferma soigneusement la porte et la lucarne et s'endormit heureux près de sa Yashmina. Si jusque vers minuit le sommeil l'avait fui, peut-être aurait-il entendu craquer obstinément le plancher sous sa couche. Ce fut juste à cette heure qu'une mère souris, cherchant de quoi nourrir sa nombreuse famille, découvrit ce chiffon qui sentait fort la sueur d'homme.
« Voilà qui nous tiendra au chaud toute l'année, » pensa-t-elle. Et poussant et tirant des griffes et des dents, elle fit basculer le turban dans son trou avec la bourse d'or. Au matin, Nuruddin tomba du lit content et se releva pâle. Il chercha hébété, ne trouva ni ne comprit rien, se dit qu'il était fou ou que quelque démon jouait à l'enragé. En vérité, il faillit perdre le sens à ressasser son malheur. Il se remit pourtant à son travail de pauvre. Après 3 nouveaux mois, les deux hommes revinrent. Nuruddin, la tête basse, dit tout ce qu'il savait.
« 2 fois, tu as perdu l'or que je t'ai offert. »« C'est 1 fois de trop, lui dit son bienfaiteur. »« Dieu t'aime, puisqu'il aime tout être. Mais il ne permet pas que tu changes de vie. Cela me paraît clair. Adieu donc, cordelier.
Il tourna les talons et s'en alla sans autre mot. Alors, l'inconnu qu'il avait trois fois accompagné s'attarda un instant dans l'atelier et dit à Nuruddin qui pleurait sur son tabouret.
Je ne veux pas partir sans t'avoir rien donné. Or, je n'ai pas grand-chose. Mais j'ai trouvé ceci tout à l'heure en venant. C'est un petit cadeau, presque rien. La paix sur toi.
Il lui tendit une boule de plomb et rejoignit son compagnon dans la ruelle.
Nuruddin regarda le misérable objet dans le creux de sa main, puis haussa les épaules, chercha où le jeter, le posa sur un bout d'étagère bancale et se remit en ronchonnant à son travail de pauvre diable.
La nuit venue, comme il allait au lit, sa bougie à la main, il entendit quelqu'un l'appeler dans la rue. Il alla prudemment entrebâiller la porte. Il reconnut la femme de son voisin, pêcheur.
« Cordelier, lui dit-elle, mon mari doit aller demain au fleuve et il n'a rien trouvé pour lester son filet. Aurais-tu quelques bouts de ferraille qui fassent son affaire ?»«
Un client m'a donné une boule de plomb, répondit Nuruddin. Elle est sur l'étagère. Prends-la. Bien le bonsoir. »
Il s'en fut se coucher en traînant la savate. Le lendemain, vers l'heure de midi, l'épouse du pêcheur entra dans l'atelier avec un beau poisson. Elle vint le brandir au nez de Nuruddin.
« Regarde, lui dit-elle, il pèse bien 3 livres. Mon homme, ce matin, a fait si belle pêche qu'il m'a dit « Nos voisins doivent en profiter. Ton bout de plomb, je crois, lui a porté bonheur. »«
Voisine, grand merci, répondit Nuruddin. Ton mari est un homme de bien. » Il trotta jusqu'à la cuisine, confia le poisson à Yashmina, sa femme, qui aussitôt sortit ses oignons, sa farine, sa planche à découper, puis retroussa ses manches et fendit sans tarder le ventre de la bête. Or, comme elle s'affairait à vider ses entrailles, dans la main lui vint une pierre étrange, aux couleurs irisées. Elle l'examina, la trouva à son goût et la posa près d'elle. Au soir de ce jour, Nuruddin, attablé devant les reliefs de ce poisson princier qu'il venait de savourer, resta soudain perplexe et, se grattant le crâne, considéra sa lampe éteinte sur la table. Il faisait nuit dehors et tout autour de lui baignait dans la lumière. Il dit à Yashmina, « Ma femme, comprends-tu ?» Elle lui répondit, « Mon homme, c'est tout simple. J'ai trouvé tout à l'heure une pierre bizarre dans les entrailles du poisson. Vois, elle est lumineuse. » Leurs visages penchés en furent éblouis. Le lendemain matin, une riche voisine aux gros doigts bagués d'or s'en vint voir Nuruddin.
« Voisin, bien le bonjour, dit-elle en s'asseyant sans autre politesse. Hier soir, comme je passais sous ta fenêtre, j'ai vu briller chez toi une lumière étrange. D'où venait donc ce jour, dis-moi, en pleine nuit ? » ?»«
D'une pierre trouvée, de rien d'autre, voisine.
Je t'en donnerais bien 50 pièces d'or. »
Nuruddin lui sourit, il ne sut que répondre.
« 100 pièces, dit la femme, allons, décide-toi. »
Nuruddin, ébahi, écarquilla les yeux.
« 500 !» gronda la femme. « Je n'aurais jamais cru que tu sois si coriace. »
Nuruddin bredouilla un balbutiement bref, 2 ou 3 gargouillis et quelques borborygmes.
« J'accepte, dit la femme. 1000 pièces d'or. Marché conclu, bonhomme. »
Elle mit dans sa main une bourse de cuivre. Nuruddin lui tendit la pierre du bout des doigts.
« Vaut-elle donc si cher ? » dit-il la voix brisée. « Plus encore, voisin !» lui répondit la femme en riant aux éclats. « Elle orna la couronne du grand roi Salomon, fils de David, la paix sur lui. Celui qui la possède n'a plus besoin de rien. Il est riche à tout jamais. »
La femme s'en alla avec la pierre rare.
De ce jour, Nuruddin découvrit l'opulence. Il décida bientôt d'abattre sa demeure et de bâtir enfin l'atelier de ses rêves.
Un matin, comme il veillait aux travaux sur le chantier, dans les décombres de sa chambre, il retrouva son vieux turban et dans ses plis crasseux l'or qu'il avait perdu. Comme il s'extasiait, un homme vint à lui. C'était un brocanteur, il semblait misérable. Il avait un vieux pot à vendre, rien de plus. Nuruddin reconnut celui que Yashmina, son épouse, avait donné à la femme du coiffeur contre un peu de henné. Il découvrit au fond sa première fortune. Elle était toujours là, sous la farine.
« Seigneur, murmura Nuruddin,
Voilà que tout me vient, moi qui étais si pauvre.
À qui donc parles-tu, bonhomme ? Lui demanda le brocanteur. Nourdine répondit.
Ami, il y a longtemps, cet or me fut offert par un inconnu. Je n'en ai plus besoin. Prends-le, toi qui me l'as innocemment rendu. Sois heureux, toi aussi. Que Dieu te soit clément, ami, comme il le fut pour moi.
Ami, merci. Tu as parlé comme je l'espérais, lui dit le brocanteur.
Nourdine regarda cet homme à la voix douce, et soudain il reconnut celui qui par deux fois avait donné sa chance au pauvre qu'il était.
Les yeux mouillés de larmes, il lui dit « Qui es-tu ? »
L'homme lui répondit « Qu'importe, tu es digne, cela suffit à mon bonheur, et que le tien témoigne de la bonté de Dieu. » À peine ces paroles dites, il disparut. Ainsi finit l'histoire de Nourdine le cordelier. Que la paix soit sur vous qui l'avez entendu.
Layla, L-A-Y-L-A. Il était une fois un vieux roi sans enfant. À la première année de son règne, il avait espéré avoir 12 garçons. Le ventre de sa femme était resté stérile. À la 10e année, il avait prié Dieu de lui donner au moins un fils. Le berceau préparé était resté vide. À la 20e année, il avait supplié ainsi le Créateur. « Seigneur, accordez-moi une fille, une seule, et je mourrai content. » Alors, le Tout-Puissant lui avait répondu, « Roi du temps, voilà l'appel que j'attendais. »
Une fille naquit. Son père aussitôt fut en souci pour elle. Il voulut qu'aucun mâle ne l'atteigne jamais. Il fit élever un palais haut et fort autour de son lit bleu. Ses quatre murs étaient de verre teinté d'or. Au travers de ces murs, on ne distinguait rien de la terre ni du ciel. Seule entrait la lumière. Jusqu'à ses 18 ans, la princesse vécut dans sa chambre fermée, nourrie de pain sans croûte et de viande sans eau. Vint un jour où sa jeune servante, étourdie par l'amour, le premier de sa vie, oublia l'os dans le rôti d'agneau et la croûte autour de la mie. La princesse s'étonna. « Pourquoi ai-je ignoré cette chose rugueuse et cette chose dure » dit-elle. Elle prit l'os dans une main, la croûte dans l'autre, heurta le mur de verre et le mur se brisa. Le dehors apparut, un jardin, des buissons, des fleurs, une fontaine bruissante. Dans ce jardin était un jeune homme, aussi beau qu'un matin d'avril. La princesse le vit et son regard brilla. « Quel aimable garçon au bord de la fontaine !» dit-elle en respirant la brise du matin. L'inconnu répondit, « Quel palais magnifique ! S'il y avait des fenêtres autant qu'il y a de jours dans la vie d'une fille âgée de 18 ans, quel lieu incomparable il serait !» Leurs yeux se rencontrèrent. Entre eux, l'amour naquit. Le garçon s'en alla. La princesse tomba en silence obstiné. Le roi, tout alarmé, vint aussitôt gémir à son chevet. « Ma Layla, que veux-tu ? Des bijoux ? Un parfumeur nouveau ? Des robes d'Occident ? 1000 têtes tranchées autour de ton lit bleu ? Mon père, je voudrais des fenêtres dans ces murs, et j'en voudrais autant que j'ai vécu de jour. »
Le roi mit sur l'instant 300 artisans et 72 ingénieurs à ce travail urgent. Quand il fut accompli, le jeune homme revint en bas dans le jardin. La princesse le vit. Elle soupira.
« Quel aimable garçon au bord de la fontaine !»
L'inconnu répondit, « Quel palais magnifique ! Aux murs de verre teinté d'or sont autant de fenêtres que de jours dans la vie de la fille du roi. Quel bonheur ce serait si devant sa porte étaient deux bancs sculptés, l'un dans l'ambre femelle, l'autre dans l'ambre mâle. » Le garçon s'en alla. La princesse tomba en mélancolie grave. Son père accourut, effrayé et suppliant. « Ma Layla, que veux-tu ? Un eunuque chanteur, un oiseau d'Amérique, un coiffeur vénitien, 10 écartèlements de brigands du désert sur la place publique ?
Mon père, je voudrais au seuil de mon jardin 2 bancs sculptés, l'un dans l'ambre femelle, l'autre dans l'ambre mâle. »
Ce fut fait le jour même. Le lendemain matin,
« Quel aimable garçon ! Au bord de la fontaine, dit la princesse heureuse. L'inconnu répondit. Quel palais magnifique! Aux murs de verre teintés d'or sont autant de fenêtres que de jours dans la vie de la fille du roi. Deux bancs sculptés dans l'ambre ornent le seuil de son jardin. Quel paradis ce serait là si l'on pouvait dresser auprès des deux bancs d'ambre deux colonnes de musc. La princesse tomba en langueur maladive. Son père vint à elle, échevelé, tremblant. « Ma Leïla, que veux-tu? Un théâtre chinois, une conteuse juive, une baleine rouge, un esclave empalé sur un pieu de cristal ?»« Mon père, je voudrais deux colonnes de musc auprès des deux bancs d'ambre. » Elles furent dressées avant qu'il soit midi. Comme la nuit tombait, « Quel aimable garçon au bord de la fontaine !» L'inconnu répondit. Quel palais magnifique! Aux murs de verre teintés d'or sont autant de fenêtres que de jours dans la vie de la fille du roi. Deux bancs sculptés dans l'ambre ornent le seuil de son jardin. Deux colonnes de musc près d'eux embaument l'air du soir. Quels mots d'amour les oiseaux entendraient si sur un banc était la beauté de Leïla et sur le banc voisin le prince El Hadj Ahmed. E-L, plus loin H-A-D-J, plus loin A-H-M-E-D. La princesse tomba en extrême faiblesse. Sa servante la veilla toute la nuit, soufflant sur ses paupières et lui baisant les mains. Quand le jour se leva, elle ouvrit les yeux et dit « Où est El Hadj Ahmed ? Princesse, il est parti ? Il me faut le rejoindre. » Elle jeta sur son dos une guenille d'esclave et quitta le palais. Elle marcha longtemps dans la poussière des caravanes, cherchant El Hadj Ahmed partout, dans les villages, les déserts, les auberges. Elle parvint enfin dans une cité blanche. Là vivait une femme. Elle était noble et seule. Un jour, elle trouva la princesse Leïla dans ses haillons crasseux, endormie devant sa porte, à l'ombre d'un figuier. Elle la fit entrer, lui lava la figure et lui offrit du lait avec du pain au raisin. Leïla but et mangea, puis elle dit, comme partout elle faisait sur sa route, « Je cherche El Hadj Ahmed. Connaissez-vous ce nom ?» La femme répondit, « Fille, c'est mon frère. Il sera là ce soir. Il vient une fois l'an passer la nuit chez moi. Le reste du temps, je ne sais où il est et cela me soucie. Que Dieu l'aide !» El Hadj Ahmed n'est pas un homme heureux. Au crépuscule, il vint. Il frappa à la porte, il entra, s'assit et se tint sans rien dire. La princesse Leïla, accroupie dans un coin, n'osa pas lui parler. Toute la nuit, elle veilla sur lui. Il n'eut pas un regard pour la fille en haillons qui se tenait dans l'ombre et ne cessait de contempler son visage. Au matin, il s'enfuit. Leïla resta dans la maison. Elle se fit servante, travailla vaillamment au ménage, à la lessive, au feu où cuisaient des galettes. El Hadj Ahmed, un soir, après un an, entra à nouveau sans un mot, s'assit contre le mur et se perdit dans ses songes. Leïla pensa, « Va-t-il me reconnaître ?» Elle lui servit du thé qu'il ne but pas. Près du prince rêveur, elle prit place et resta sans bouger. La nuit passa ainsi. Au matin, il partit comme il était venu. Le temps s'en fut, revint, El Hadj Ahmed aussi. La princesse Leïla avait lavé le carrelage et disposé des coussins sur un tapis moelleux. Quand il se fut assis, elle s'agenouilla devant lui. « Je cherche El Hadj Ahmed. Connaissez-vous ce nom ? » dit-elle doucement. Il releva le front, regarda Leïla, la reconnut enfin. Il dit « Dieu Tout-Puissant, voilà celle que j'aime. Elle est venue à moi qui suis ensorcelée. » Elle lui répondit, « Je te délivrerai. Parle, mon bien-aimé. Que faut-il faire ? » De bien étranges choses. Me prendre dans la bouche le dernier pain du jour. M'arracher 7 cheveux sans que j'en sente rien. Suivre mes pas demain sans que je le soupçonne. Aller jusqu'où j'irai. Jeter le pain au feu. Brûler les 7 cheveux. Et rester 30 nuits sans dormir. À m'attendre. Aie confiance, dit Leïla, je ne faillirai pas. Elle lui servit un repas confortable, prit entre ses dents le dernier pain du jour, le berça, l'endormit, arracha 7 cheveux sur sa tête sans qu'il s'en aperçoive, le suivit au matin jusqu'au bord de la mer, le vit entrer dans une grotte obscure. Au seuil de cette grotte, elle alluma le feu et dans ce feu jeta ce qui devait brûler. Enfin, elle s'assit au bord des vagues et veilla. 10 jours, 10 nuits passèrent, et 20 et 9 encore. Les larmes et le vent salé tinrent ses yeux ouverts. Le dernier soir venu, une pêcheuse d'algues s'approcha d'elle et dit « Que fais-tu là, beauté triste ?» Leïla lui conta son histoire. Puis sa tête fléchit, son regard s'embruma, et le sommeil la prit. La pêcheuse lui fit un oreiller de sable. Après quoi, elle attendit le jour. À l'aube, un poisson monstrueux apparut sur la mer. Sa gueule béante était un soleil noir. Dans un hoquet puissant, il vomit le prince El Hadj Ahmed sur la rive. La pêcheuse aussitôt courut à sa rencontre. Il lui dit « Qui es-tu ?» Elle lui répondit « Leïla, ta bien-aimée, prince El Hadj Ahmed, ne me repousse pas !» Elle lui raconta la longue histoire qu'elle avait entendue de la pauvre endormie. El Hadj Ahmed la crut. Ils s'en allèrent ensemble. La princesse Leïla, enfin, se réveilla au bord des vagues. Elle se vit trahie. Elle revint en ville et partout demanda « Je cherche El Hadj Ahmed, connaissez-vous ce nom ?» Après longtemps d'errance, elle découvrit la demeure du prince. C'était un soir d'été. Sous l'olivier, devant la porte ouverte, elle se mit à chanter le palais magnifique aux 4 murs de verre et le jeune homme aimable au bord de la fontaine, les fenêtres nombreuses autant qu'il y a de jours dans la vie d'une fille âgée de 18 ans, les bancs sculptés dans l'ambre, des colonnes de musc. La lune monta dans l'olivier. Alors, El Hadj Ahmed sortit de sa maison. « Approche-toi, lui dit-il. » Elle fit un pas vers lui. « Approche-toi encore. » Elle fit 2 et 3 pas. « Leïla, dit-il. » Il lui ouvrit les bras. « Béni soit le vivant. » Elle s'enfuit dedans. Amérique. Haïti. Ma beauté, avec un trait d'union entre ma et beauté. Malade, très malade était la pauvre femme, si malade qu'un matin, elle vit venir la mort par la fenêtre. Alors elle appela ses 2 fils et ma beauté, sa fille, que l'on nommait ainsi parce qu'elle était belle comme la lumière de l'œil. Mes enfants, je me meurs, leur dit-elle. Je ne vous quitte pas, c'est la vie qui me quitte. Vous allez souffrir tendre comme vous êtes. Votre père est trop faible, il ne peut rien pour vous, mais moi je peux encore. Approchez-vous que je touche vos fronts. Au bord de l'oreiller, tous les 3 se penchèrent. Sur le front de chacun d'eux, elle posa un grain de blé, et ce grain de blé s'enfonça dans la chair des enfants, et quand il fut niché entre la peau et l'os, on ne vit sur la peau qu'une petite étoile. La femme dit encore, quand le malheur viendra, pensez à votre mère, touchez-vous le front et faites 3 vœux. Ils seront exaucés. Laissez-moi maintenant. La mort essuie ses pieds sur la pierre du seuil. L'entendez-vous ? Allez jouer, qu'elle ne vous voit pas. Ils allèrent jouer sous l'arbre de la cour et leur mère mourut. Après 1 an de deuil, leur père épousa sa voisine. C'était une mégère épaisse et malveillante. Dès qu'il eut 17 ans, le fils aîné s'en alla vivre à la grande ville. Il emmena son frère. Ma beauté resta seule avec la grosse femme et son triste mari qui partait tous les matins à son travail sans un mot pour sa fille. Un jour, l'épouse de son père était à la rivière à faire sa lessive. Après qu'elle eut frotté, battu, rincé son linge, elle en fit un grand tas dans son panier, mit sa planche dessus, son battoir, son savon, et voulut charger son fardeau sur sa tête. Elle ne put le hisser plus haut que ses sandales. Elle se mit à gémir, les manches retroussées sur ses gros bras suants. « Misère noire ! Il me faudrait de l'aide !»
L'eau soudain bouillonna, un visage apparut content et monstrueux, puis un corps écailleux, puis deux longs bras semblables à des serpents.
« Tu m'appelles, je viens, » dit la chose d'enfer.
« Que me donneras-tu si je porte ton fardeau ?»«
Une poule rousse. »«
Femme, ce n'est rien. »«
Une chèvre blanche. »«
Femme, c'est bien un peu. »«
Une vache grasse. »«
Femme, dis encore. »«
Je n'ai rien de mieux. »
« Tu portes un enfant. C'est lui que je veux. »«
On peut marchander ?»«
Marchande, marchande. »«
Je garde l'enfant. Tu prends ma beauté, la dernière née de mon mari. »«
Bien, dit le démon. Je prends ma beauté. »«
Je l'enverrai tout à l'heure à la rivière. Tu la reconnaîtras. Elle aura 12 fleurs piquées dans les cheveux. »
La femme s'en revint chez elle, poussa la porte du jardin.
« Ma beauté, viens là que je te coiffe. »
Ma beauté jouait avec ses cousines à l'ombre du mur. La femme s'assit près d'elle et des filles sur un tabouret et cueillit des fleurs.
Belle, belle, belle ! À chaque mot belle, elle les piqua dans la chevelure de ma beauté.
Cours à la rivière, j'ai perdu un drap.
Ma beauté s'en fut avec ses cousines. Les filles aussi se voulurent belles. En chemin, elles cueillirent des marguerites, 12 chacune, ornèrent leur front et leur tête brune. Le démon les vit, elles étaient semblables. Il gronda.
« Qui est ma beauté ?»
Il ne put le savoir. Il s'enfonça dans l'eau. Quand le lendemain, la femme revint sur la rive.
« Tu m'as trompé, bougresse !»«
Pardon, pardon, » répondit la femme. « Demain, c'est promis, ma beauté viendra seule. Elle portera un collier de grains de réglisse rouge. »
De retour chez elle.
« Cadeau, un cadeau, ma beauté, pour toi !»
Elle lui mit au cou un beau collier rouge.
« Va chercher de l'eau. »«
Venez avec moi, » dit ma beauté à ses cousines.
En chemin, toutes voulurent la même parure que ma beauté. Toutes arrivèrent pareillement ornées au bord de la rivière.
« Qui est ma beauté ?»
gronda le démon. Pas plus que la veille, il ne put savoir.
Le lendemain, au point du jour, la femme s'en vint aux nouvelles. Le monstre lui dit
« Je veux ma beauté !» Ce soir, à minuit, je viendrai la tendre devant ta maison. Fais en sorte que je la trouve. Sinon, c'est toi que je prendrai.
Le soir vint.
Ma beauté, dit la mauvaise femme, on danse ce soir dans la vallée. Va au bal, ma fille, et prends du bon temps. Reviens à minuit sonnant. Ton père l'exige.
Ma beauté s'en fut, ma beauté dansa.
À minuit sonnant, ma beauté revint. Père, père, ouvrez! « C'est l'heure du diable. Père, père, ouvrez, je le sens qui vient. »
Le démon surgit au pas de la porte. Alors ma beauté se souvint de sa mère. Elle toucha son étoile au front.
« Démon de l'enfer, loin d'ici, » dit-elle.
Le monstre recula dans l'ombre.
« Père, père, ouvrez, le diable s'en vient. »
Le père remua là-haut dans sa chambre.
« Femme, il m'a semblé entendre crier. Dors, mon homme, dors, c'est le bruit du vent. »
Dehors, le démon s'avança d'un pas hors de l'ombre noire. Alors ma beauté, sa main sur l'étoile, appela ses frères. Dans la chambre de la grande ville, l'aîné bondit hors de son lit.
« Ma beauté m'appelle !» Il toucha son front. Il fut aussitôt près de ma beauté.
Son frère cadet, au bord de la mer, lançait des galets sur les vagues. Il était avec 4 matelots.
« Adieu les amis, il faut que je parte !»
Il prit son couteau, toucha son front. Il fut aussitôt devant la maison où était sa sœur, où était son frère.
Le démon bondit, la gueule grinçante, les couteaux luisants tranchèrent la nuit comme deux éclairs.
Le démon tomba, saignant de partout. Ils le découpèrent en petits morceaux. Ma beauté, avec ses deux frères, s'en alla dormir au jardin. Le lendemain matin, la femme vit le sang et la chair dispersés devant sa porte.
« ma beauté !» cria-t-elle. « Elle est morte !»
Ma beauté parut entre les garçons. Elle était belle comme la lumière de l'œil. Tous les trois passèrent devant les voisins rassemblés. Sans un mot de salut, ils s'en allèrent ensemble au travail de la vie.
Amérique du Nord. Les trois clés. Quand vieux Père Céleste eut fait l'homme et la femme, il les mit tous les deux dans la même maison pour qu'ils y vivent ensemble et s'entraident l'un l'autre. Mais ils y furent mal. Ils étaient trop semblables, car Dieu, étourdiment, les avait faits de même force. Ils se disputaient donc les mêmes territoires avec la même hargne et la même vigueur.
comme ils avaient autant l'un que l'autre de muscles et de malignité, il n'y avait jamais de vainqueur. Or, il advint qu'un jour, l'homme s'exaspéra.
« Cette vie, se dit-il, est trop inconfortable. Il faut que l'un de nous décidément gouverne, autant que ce soit moi. »
Il s'en alla voir Dieu dans son pays d'en haut.
« Bonjour à toi, mon fils, lui dit le Créateur.
« Bien le bonjour, vieux père. J'ai des soucis, dit l'homme.
« Et quels sont-ils, mon fils? Parle donc, je t'écoute. »
L'homme prit un grand souffle. « Oh, vieux faiseur des choses, dit-il, toi dont la chevelure est couronnée d'étoiles, toi qui fais naître un monde à chacun de tes pas, toi dont la main droite lance tous les matins le soleil dans le ciel jusque dans ta main gauche où il tombe le soir, tu sais que ma compagne est forte autant que moi. Ce n'est pas bon, Seigneur. Nos guerres s'éternisent et le bonheur nous fuit. Aussi, je te supplie de faire de moi seul le maître du ménage. Il me faut pour cela des épaules plus larges, une taille plus haute et des cuisses plus fermes.
As-tu bien réfléchi ? Demanda Dieu songeur.
L'autre lui répondit qu'il avait tout pesé, le pour comme le contre.
« Qu'il en soit selon ton désir, dit vieux père après un long silence. Retourne-t'en sur terre et règne sagement. »
L'homme redescendit les escaliers célestes, courut à sa maison, entra dans la cuisine.
« Femme, regarde-moi et tâte un peu mon corps, dit-il, bombant le torse. Je suis plus fort que toi. Désormais, devant moi, tu baisseras les yeux et tu fileras doux. Dieu est de mon côté. » C'est lui qui m'a donné le pouvoir de te vaincre. La femme protesta. Il lui gifla la face. Elle lui bondit dessus, mordit, griffa, cogna. Il la prit par la nuque, il la jeta par terre, puis la tint d'une main, le front contre le sol et la fessa de l'autre, jusqu'à ce qu'elle demande grâce. Enfin, sûr de sa force, il lui dit.
Si tu sais obéir, tu vivras décemment. Mais si tu te rebiffes, tu n'auras à manger que la poussière de mes sandales et tes larmes à boire. Va maintenant, travaille. Je vais dormir un peu.
La femme s'en alla, mais point à son ouvrage. Elle s'en fut tout droit au royaume d'en haut.
Bonjour à toi, ma fille, lui dit le Créateur.
Elle tremblait de rage. Père, bien le bonjour. J'ai beaucoup à me plaindre. La force que j'avais, pourquoi me l'as-tu prise ?
« Fille, répondit Dieu, tu es forte aujourd'hui comme tu l'étais hier. Si c'était vrai, vieux père, mon époux n'aurait pu poser son pied crasseux entre mes deux épaules. »
Le vieux père lui conta la visite de l'homme. La femme l'écouta, puis...
« En bonne justice, ô Seigneur de nos vies, dit-elle, tu dois à moi aussi accorder plus de muscles afin que nous soyons égaux comme autrefois. »
Le vieux père hocha la tête.
« Il est trop tard, ma fille. Ce que Dieu a donné, Dieu ne le reprend pas. Ton compagnon voulait être plus fort que toi. Il l'est. Il le sera jusqu'à la fin des temps. »
La femme, furibonde, serra les poings et tourna les talons. Le pas vif et sonnant, elle s'en alla droit chez vieil oncle le diable. En pleurant et geignant, elle lui raconta ce qui s'était passé. Le diable lui sourit, la prit aimablement par le bras et lui dit « Femme, rien n'est perdu. Retourne-t'en voir Dieu et fais-lui bon visage. Flatte-le. Il aime cela. Enfin, demande-lui qu'il te donne les clés que tu verras pendues près de sa cheminée. Tu me les porteras, je te dirai qu'en faire. »
La femme reprit donc le chemin du royaume d'en haut. D'escaliers en sentiers abrupts, toute la nuit elle grimpa. Au matin, elle était à la porte du ciel. Elle risqua son visage par l'entrebâillement et dit à voix fluette « Je peux entrer, Seigneur ?» Elle vint devant Dieu sur la pointe des pieds, se fit tout miel, tout sucre. « Je connais ta grandeur, ô vieux père, » dit-elle. « Tu n'as jamais créé deux montagnes arides sans faire entre elles une vallée accueillante aux vivants. Plus tes hivers sont rudes, plus tes printemps sont beaux. Même à bâton tordu dans ton poing infaillible, assène des coups droits. Ta justice me plaît. »
Fille, répondit Dieu, que désires-tu donc ?
Vieux père, pas grand-chose. ses trois clés suspendues près de la cheminée.
L'œil de Dieu pétilla. Il répondit, « Prends-les !»
Elle les empocha, redescendit sur terre et s'enfonça encore jusqu'au royaume d'en bas. Vieil oncle le diable l'accueillit au seuil de sa demeure. « Regarde !» lui dit-elle. Elle brandit le trousseau rieuse sous son nez. « Tu tiens là un trésor !» lui répondit le diable. « Il y a dans ces trois clés, si tu sais t'en servir, un pouvoir si puissant que ton balourd époux en sera désarmé. » La première est celle de la cuisine. Et tu sais combien l'homme aime à se mettre à table. La deuxième est celle de la chambre. Et tu sais combien l'homme aime à se mettre au lit. La troisième est celle du berceau. Et tu sais combien l'homme aime avoir de beaux enfants. Prends-les donc, ma jolie, verrouille les trois portes. Et quand ton époux rentrera, ne lui en ouvre aucune. Tant qu'il n'aura pas mis sa force à ton service. Beau diable, grand merci, permets que je t'embrasse. La femme mit les clés dans sa poche profonde et retourna chez elle.
L'homme, au soir, la trouva nonchalamment assise sur la pierre du seuil. Un brin d'herbe à la bouche, elle fredonnait tout doux.
« Je te ferai chanter un autre air tout à l'heure, » grogna-t-il en passant. Il entra, fit grand bruit partout dans la maison, puis bientôt s'en revint où était son épouse. « Qui a fermé ces portes ? » rugit-il, désignant la pénombre dedans.
« C'est moi, » lui dit la femme.
« Comment donc as-tu fait ? » ?»«
Je n'ai eu qu'à tourner trois clés dans trois serrures. »«
Misère de mes os ! Ces clés, d'où les tiens-tu ? » ?»«
Dieu me les a données. » L'homme grogna trois coups, courut à l'escalier qui grimpait chez vieux père, marcha jusqu'à son trône.
« Oh, faiseur de miracles, j'ai besoin de ton aide. La femme m'interdit ma cuisine, ma chambre et le berceau de mes enfants. Les trois portes sont closes. Et cette garce dit qu'elle tient de toi les clés qui les ont verrouillées. »«
C'est vrai, dit Dieu. Je les lui ai offertes. Le diable seul pouvait lui apprendre à s'en servir. Sans doute l'a-t-il fait. »
Le diable l'a aidé, donc elle t'a trahi. Vieux père, punis-la, confisque son pouvoir.
Impossible, mon fils. Ce que Dieu a donné, Dieu ne le reprend pas. La femme aura les clés, toujours.
Et mon ventre affamé, qui donc le nourrira? Et mon corps fatigué, qui donc l'apaisera? Et mes enfants futurs, qui donc les sèmera?
Demande à ton épouse, ô fils. Répondit Dieu.
L'homme revint chez lui. De mauvais gré d'abord, il honora sa femme, puis les portes s'ouvrant, il le fit de bon cœur. Et la marmite au feu ronronna doucement, et le grand lit bruissa, et le berceau chanta. Depuis ce temps, la femme est gardienne des clés dans la maison commune, et l'homme n'y peut rien. Il est fort au dehors, il est faible au dedans. À chacun son pouvoir. Et puisque Dieu et diable ont ensemble voulu qu'il en soit ainsi, ce doit être bonne justice. Comment se rencontrèrent les hommes et les femmes? Qui créa le monde? Vieil homme. Il fit bien toutes choses, sauf une qu'il fit mal. Dans un village, il mit les hommes. Avec les hommes, il habita. Et dans un autre, il mit les femmes. Il mit entre eux une forêt. Hommes et femmes ainsi vécurent, chacun chez soi, chacun pour soi, les hommes ignorant l'existence des femmes et les femmes ignorant l'existence des hommes. Leur vie d'abord fut en tout point semblable. Armés de presque rien, de bâtons, de cailloux, ils chassèrent le buffle, ils firent de leur peau des vêtements grossiers et se nourrirent de viande crue, de rien d'autre, car en ces temps lointains, aucun d'eux ne savait que les fruits, le maïs, les légumes étaient bons. Plus tard, beaucoup plus tard, les hommes apprirent à tendre des arcs et à tailler des flèches, les femmes à tanner et à souplir le cuir. Elles en couvrirent leurs tentes,
puis s'en firent des robes ornées de belles pierres et de piquants de hérissons. Alors, vieil homme, un jour dans sa hutte de branches, prit sa tête à deux mains et se dit
« Ma création pourrait être meilleure. J'ai mis hommes et femmes en des lieux séparés. J'ai eu tort. Il n'y a là ni plaisir, ni chance de bonheur. En vérité, il faudrait qu'ils s'unissent afin que naissent d'autres êtres. Et il faudrait que cette union soit tant agréable qu'aucun n'y puisse résister, sinon ils resteront chacun de son côté. Qui doit donner l'exemple ? C'est moi, bien sûr, c'est moi, pauvre vieux fatigué. »
Vieil homme s'en fut donc où les femmes vivaient. Au sortir de la forêt, de derrière un buisson, il observa longtemps dans le pré leur village.
« Comme leurs tentes sont lisses et hautes, comme leurs robes sont belles, se dit-il. Quels grossiers arriérés nous sommes, pauvres hommes, nous qui n'avons pour toi que des branches mal jointes et pour tout vêtement que du cuir brut et puant. Il faut que cela change, il faut absolument qu'elles viennent chez nous. »
Le vieux s'en retourna au village des hommes et conta ce qu'il avait vu. Chacun s'extasia et tous dirent ensemble « Allons à leur rencontre, unissons-nous à elles !»«
Outre qu'elles ont ce qui vous fait envie, dit encore vieil homme, vous trouverez aussi à caresser leur corps une sensation neuve et plus agréable que vous ne sauriez l'imaginer. Attendons quelque temps. À la belle saison, nous irons tous les voir. »
Comme il parlait ainsi, vieille femme étonnée découvrait dans le bois les empreintes de pas qu'avait laissées vieil homme. Elle suivit ses traces, chemina 4 jours, aperçut dans un pré un camp de huttes basses. C'était celui des hommes. Elle les épia, puis s'en revint chez elle et dit à ses compagnes « Il y a là-bas un lieu où vivent des humains. Ils sont plus grands que nous, ils sont plus forts aussi. » Ils possèdent des armes et tuent tant de gibier qu'ils ne connaissent pas comme nous la famine. » Les femmes émerveillées répondirent « Si nous vivions près d'eux, quel bonheur ce serait !» Un jour, comme elles allaient, rêveuses, à leur travail, c'était le premier jour de la saison nouvelle, les hommes apparurent au bord de la forêt. Ils s'approchèrent d'elles. Ils étaient tous vêtus de lambeaux de cuir brut. Leur peau était crasseuse, leurs cheveux hirsutes, ils puaient. Elles dirent « Ces êtres-là sont-ils des humains ou des bêtes? Ils sont sales comme des porcs, ils en pèsent !» Vieille femme cria « Allez-vous-en loin d'ici! Allez-vous-en loin d'ici !» braillèrent ses compagnes en jetant des cailloux, des branches, de la boue à leur face barbue. En hâte, ils reculèrent, revinrent dans le bois. Le vieux leur dit alors
« J'ai bien fait de planter leur village loin de chez nous. Ces femmes sont cruelles. Je vais peut-être bien les jeter hors du monde. »
Il rameuta ses hommes et tous s'en retournèrent. Dès qu'ils furent partis, vieille femme se retira dans sa tente de buffle, s'assit sur un tapis, resta la tête basse, 4 jours pleins à réfléchir, puis elle se dit « Nous aurions dû tenter d'aider ces pauvres êtres. Nous avons été sottes, orgueilleuses, méchantes. Pourquoi ne pas aller vers eux ? Tout humblement, vêtus comme ils le sont, aussi crasseuses qu'eux, nos beaux habits les intimident. Il faut que nous soyons comme ils se voient eux-mêmes. » Fin de la première face de la 8e cassette. Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, page 338. La suite et fin de « Comment se rencontrèrent les hommes et les femmes ?» se trouve au début de la 2e face de cette cassette. À tout de suite.